Au téléphone sonne ce soir, l'ubérisation du marché du travail. Le terme est apparu il y a 5 ans avec la mise en contact rapide de clients et de professionnels via des plateformes pour une course en voiture avec chauffeur ou bien pour des livraisons de repas à vélo et à domicile. Cette ubérisation illustre certes des perspectives d'emploi, mais aussi une précarité des conditions de travail. C'est ce que dénonce une partie des livreurs de repas à vélo de chez Deliveroo. Car ils en ont ras la casquette depuis que la direction a décidé fin juillet de baisser le coût de certaines courses. D'où cette grève perlée de quelques dizaines de salariés de Deliveroo. Certains ont même lancé des appels au boycott de la marque.
On fait ça pour faire perdre de l'argent à Deliveroo, pour qu'ils nous entendent, qu'ils remontent les prix à 5 euros minimum. On travaille pour 2,50 euros, 3,50 euros, avec les charges, les impôts à la fin d'année, mais on est plus du tout rentable, on roule gratuitement pour eux. C'est vraiment un scandale.
Alors au téléphone sonne ce soir, eh bien on fait le point sur le statut de ces travailleurs de plateforme, travailleurs indépendants, mais dans les faits, très dépendants des plateformes qui les font travailler. Leur statut est d'ailleurs devenu un casse-tête pour le gouvernement. Avec une question ce soir, qu'est-ce que cela présage des emplois du futur? Vos questions ce soir, vos témoignages au standard 01 45 24 7000 ou bien sur l'appli France Inter à l'onglet Réagir.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
01 45 24 7000 avec un premier appel au standard. Jackie, bonsoir Jackie.
Bonsoir Eric, bonsoir François.
Vous habitez Sommières dans le Gard. Quelle est votre question?
Tout à fait. Alors ma question est assez simple, même si ça englobe beaucoup de choses dans la marche de la société aujourd'hui. Internet était perçu comme quelque chose qui allait délivrer les gens et faciliter les échanges et créer de la richesse, mais aussi du progrès social. Or, on voit, après 20 ans, 25 ans, 20 ans, que c'est plutôt une paupérisation des emplois, une façon de détourner les droits des travailleurs, des droits acquis depuis 1936 comme la sécurité sociale, les congés payés, tout un tas d'acquis sociaux. Alors je dis pas qu'il n'y avait pas quelques ajustements à faire justement pour la fluidité de notre société actuelle, mais en tout cas on met des coups de serpe sérieux à tous ces acquis sociaux et on sous prétexte que ce serait un frein à la croissance. Mais est-ce que le progrès social, n'est-ce pas ça la véritable croissance?
Eh bien, Jackie,
est-ce que cette situation est véritablement tenable?
Eh bien, pour vous répondre ce soir, Jackie, nous avons trois invités avec Pascal Lokiek. Bonsoir, Pascal Lokiek.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. À vos côtés, Jérôme Pimaud, vous êtes coursier. Bonjour, Jérôme Pimaud. Vous êtes aussi cofondateur du collectif des livreurs autonomes parisiens, CLAP 75, qui soutient le mouvement de grève chez Deliveroo. Et puis, en ligne au téléphone, Gilles Babinet. Vous nous entendez, Gilles Babinet?
Oui, oui.
Bonsoir, vous êtes entrepreneur, vous êtes vice-président du Conseil national du numérique et puis vous êtes en duplex de La Rochelle. Je rappelle que le Conseil national du numérique a été créé il y a environ 8 ans par décret présidentiel et c'est une commission consultative. Alors la question de notre premier auditeur, est-ce que l'économie digitale n'est pas en train, de façon inéluctable, de paupériser les emplois? Pascal Lokiek, vous êtes président de l'Association française du droit du travail et de la sécurité sociale. Vous partagez ce point de vue?
Oui, en grande partie. À vrai dire, Internet est né il y a pas mal d'années sur l'idée d'une communauté, hein, la communauté des internautes, sur l'idée de partage. Et c'est vrai qu'on en est largement sorti. Alors, c'est peut-être pas tant Internet qui est en cause qu'une certaine idée de la modernité. En fait, aujourd'hui, on est obsédé par ce qui est nouveau, par ce qui est moderne. Il faut absolument tout changer, comme si ce qu'on avait avant n'allait pas du tout. Donc, le salariat, typiquement, c'est devenu une vieille idée. Et donc, Internet, qui est quelque chose d'extraordinaire, véhicule une sorte d'obsession pour le moderne et une évacuation de tout ce qui s'est fait avant. Donc, typiquement, aujourd'hui, le travail indépendant est présenté comme la modernité, le salarié comme une vieille idée. Alors, Internet, c'est aussi une transformation de l'entreprise, des entreprises qui sont désincarnées. Donc, les plateformes, ce sont des intermédiaires, ce sont des entreprises qui n'ont plus de chair. Donc voilà, donc Internet n'est pas en cause en soi, mais pour moi, c'est toute cette dématérialisation qui l'accompagne qui est à remettre en cause. Alors, votre auditeur a une deuxième remarque qui me semble très juste. Le progrès social, ça n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, à mon sens, la France a au contraire beaucoup à gagner à développer des protections pour ses travailleurs, qu'ils soient d'ailleurs salariés ou indépendants.
Sauf que Jackie parle justement de coups de serpe aux acquis sociaux, avec cette digitalisation de l'économie.
Ouais, absolument. C'est la faute à ces plateformes qui reposent sur un business model, on va dire, qui nie totalement l'existence du salariat, puisque ce sont des business models construits sur le travailleur indépendant. Et il faut aussi dire que les évolutions législatives, depuis quelques années en France et ailleurs, ont tendance aussi à faire reculer les protections.
On va rentrer dans le vif du sujet aussi avec vous, Jérôme Pimaud. Je rappelle que vous êtes coursier, vous avez cofondé le collectif des livreurs autonomes parisiens, Clap 75, qui soutient donc le mouvement de grève chez Deliveroo. Un mot sur cette nouvelle grille tarifaire mise en place chez Deliveroo. On parlait avec notre auditeur de coups de serpe aux acquis sociaux. La direction, avec cette nouvelle grille tarifaire, il n'y a plus de tarif minimum de course. Les tarifs sont en baisse pour les courses les plus courtes. En revanche, pour certaines courses les plus longues, hein, au-delà de 10 minutes, certaines vont être revues, revalorisées à la hausse. Pourquoi y êtes-vous opposé?
Oui, alors les longues courses qui sont...
Alors, allez-y, vous avez
les longues courses qui sont revalorisées à la hausse, c'est un vieux truc. Hein. C'était il y a 8 jours. Déjà, elles sont en train de diminuer. Quand elles diminuent pas de façon drastique. Donc, en fin de compte, au départ, voilà, ça nous a été présenté comme ça. Les longues courses vont augmenter et les petites vont réduire. Sauf qu'en fin de compte, on s'est aperçu que les longues courses sur les quelques premiers jours, celles qui augmentaient, elles avaient augmenté un petit peu. Et les courtes, ça, par contre, elles avaient diminué de moitié. Donc, évidemment, que ça a créé une espèce de choc thermique.
Avec quelles conséquences sur le salaire mensuel des livreurs qui sont des auto-entrepreneurs?
Et ben, c'est pour ça que je parlais de choc thermique économique, en fin de compte, c'est qu'ils ont vu en quelques jours leur revenu, leur chiffre d'affaires baisser de 30 à 50% pour certains. Plus on travaille, en fin de compte, moins on a d'argent, parce que plus on travaille, plus on est tributaire de ce chiffre d'affaires, donc plus on gagne, moins on gagne.
Alors, sauf que le porte-parole de la direction de Deliveroo, lui, s'étonne de la contestation des livreurs, en disant même que cette nouvelle grille tarifaire répond justement à une demande des livreurs. Vous lui répondez quoi?
Alors déjà, je suis interpellé quand il dit qu'il s'étonne, parce qu'en fin de compte, 2 jours avant la mise en place de cette tarification, des restaurateurs ont envoyé des mails, qu'évidemment des coursiers ont pu se procurer, parce qu'on est en contact direct avec les restaurateurs, et Deliveroo prévenait les restaurateurs d'éventuels, de potentiels grève, mouvement de grève, avec des heures, des choses comme ça, des heures, parce qu'en effet, ils allaient mettre en place une nouvelle tarification. 2 jours avant la tarification, personne n'était au courant chez les coursiers. Et donc, la tarification a été mise en place le mardi à midi. Le soir même, des villes comme Toulouse et Nice bloquaient, se mettaient en grève. Et surtout, en fin de compte, les 70% des livreurs, dit que 70% des livreurs auraient été... aurait plébiscité ce nouveau tarif. On s'est aperçu en fait que le calcul des 70%, ils avaient envoyé un questionnaire à certains de leurs livreurs, 15% avaient répondu et 70% de ces 15% étaient satisfaits de l'offre qu'on leur proposait.
Juste pour en finir avec le cas de Deliveroo, et on va s'intéresser après de façon plus générale à l'économie digitale, quel est le salaire moyen mensuel d'un livreur à vélo de repas rapide chez Deliveroo?
On parle pas de salaire déjà, on parle de revenus,
on parle de chiffre d'affaires,
et pas salarié. Mensuel non, parce que tout le monde travaille pas le même nombre d'heures. Il y a des gens qui travaillent 15 heures par semaine, des gens qui vont travailler 60 heures par semaine. Donc évidemment, je peux pas vous donner une fourchette, ça voudrait rien dire. On est plutôt sur du revenu à l'heure. Le revenu à l'heure, il est entre, on va dire, 10 et 15 euros.
Gilles Babinet, vous êtes vice-président du Conseil national du numérique en duplex de La Rochelle. Le statut des coursiers à vélo chez Deliveroo, ce sont bien des auto-entrepreneurs, hein, donc des partenaires de la plateforme plutôt que des salariés. Avec quels avantages pour eux et aussi quels inconvénients?
L'avantage, c'est une des promesses de l'Internet, c'est de créer des nouvelles formes de travail et de faire en sorte qu'on ait une sorte d'émancipation. Attention, hein, je ne dis pas du tout que ce soit arrivé, et je crois que ce qui a été dit jusqu'à présent est très légitime, mais on a eu une immense promesse, et je crois depuis 20 ans, au travers de l'Internet, de créer à la fois des nouvelles formes de travail, des nouvelles formes de distribution de la connaissance. Et je crois que finalement cet enthousiasme est aujourd'hui largement douché parce que on voit que lorsque l'on parlait d'ailleurs de rentrer dans la société de la connaissance, eh bien en fait on est rentré surtout dans une forme de dépréciation progressive des acquis sociaux du XXe siècle. Et on parle d'ailleurs de la fermeture de ce qu'on appelle la parenthèse fordiste qui a vu la productivité s'améliorer en même temps que les droits sociaux s'amélioraient, que les revenus s'amélioraient. Enfin, je crois à une sorte de pacte entre le grand capital et le travail qui était au bénéfice des deux parties. Donc ça a duré pendant 70 ans.
Et il va falloir réorganiser tout ça.
Et là, aujourd'hui, vous avez une asymétrie extrêmement forte entre les plateformes qui ont des capacités extrêmement fortes à la fois de négociations commerciales avec, dans le cadre des livres, des restaurants, et puis des capacités technologiques et des livreurs, des indépendants, de la gig economy, des slashers, enfin ils ont différents noms suivant les pays, qui n'ont pas de capacité de négociation parce qu'ils ne sont pas avec des contrats de travail, ils sont avec des contrats de droit commercial, et puis ils sont atomisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lieu pour se rencontrer, ils n'ont pas de force syndicale, et on essaye effectivement, du côté des plateformes, de dire mais tout ça, c'est des trucs du passé,
Gilles Babinet.
Il faut le dépasser.
Je vous coupe, Gilles Babinet, parce que vous êtes au téléphone en direct de La Rochelle. La ligne n'est pas très bonne. Je vous demanderai, s'il vous plaît, Gilles, de donner quelques explications et quelques réponses plus courtes, s'il vous plaît, pour le confort d'écoute de nos auditeurs.
Bien sûr.
Merci. Pascal Liokek, à propos de ces auto-entrepreneurs, donc hyper dépendants des plateformes qui les font travailler, quand les plateformes décident unilatéralement de revoir à la baisse la tarification de base. Est-ce que ce diktat, sans concertation, donc, est bien légal ?
Il est malheureusement tout à fait légal. Puisque en France, comme dans la plupart des pays, on fonctionne sur un dualisme. Vous avez d'un côté les salariés qui bénéficient du code du travail avec toute une série de protections. Et vous avez à côté de cela, l'opposé, vous avez des indépendants qui ont, eux, une quasi-absence de protection. Juridiquement parlant, les livreurs dont on parle sont des travailleurs indépendants. Ce qui veut dire qu'on peut sans difficulté modifier leur rémunération, à condition qu'évidemment elle n'ait pas été prévue dans le contrat, et puis surtout ils n'ont pas de garantie d'un salaire minimum.
Donc, minimum.
De revenu minimum, exactement, de revenu minimum, puisque ce ne sont pas des salariés. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il ne faut pas assurer une protection qui ne serait pas celle du salariat, mais qui serait supérieure à celle très faible des indépendants, à ces travailleurs. Et c'est ce qu'on appelle les travailleurs économiquement dépendants. Un certain nombre de pays ont consacré un statut général du travailleur économiquement dépendant. C'est le cas des Anglais, c'est le cas des Espagnols ou encore des Italiens.
Mais les gouvernements Hollande et puis Macron, ils ont bien tenté aussi de mettre en place des mesures de protection sociale au profit des travailleurs, on va dire atypiques, vous dites indépendants. Qu'est-ce qu'ils ont déjà obtenu ? Il y a une loi qui va arriver en septembre, on va en parler, mais qu'est-ce qu'ils ont déjà obtenu ?
Alors déjà, la logique n'est pas la même. La logique en France, c'est très clair en plus dans le projet de loi mobilité qui est en ce moment devant le Parlement. La logique
qui sera
pas...
sûrement votée en septembre,
voilà,
le mois
exactement.
Prochain.
La logique qu'on a adoptée en France, ce n'est pas un statut pour tous les travailleurs économiquement dépendants, il y en a plein. On a cherché à faire quelque chose de plus spécifique. Donc la loi El Khomri, on était sur les travailleurs des plateformes, et donc uniquement. Et la loi mobilité, c'est encore plus spécifique, puisque là, c'est uniquement les travailleurs des plateformes de la mobilité. Hein, donc, c'est-à-dire les chauffeurs VTC et les livreurs. Donc, on est sur quelque chose d'assez spécifique et surtout, on y reviendra peut-être, les protections sont quand même extrêmement faibles. La loi El Khomri, on était sur des protections en termes de formation commune. On consacre un droit de grève qui existe déjà. En tout cas, on n'a pas besoin de texte pour le faire. On consacre un droit d'adhésion syndicale. On n'a pas besoin de texte. Et la loi mobilité, dont on ne peut pas éventuellement parler, on est sur une charte. C'est-à-dire
c'est
que quelque chose.
Même facultative, je crois, pour l'instant.
Voilà, elle est à la fois facultative et fixée unilatéralement par la plateforme. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, est très est très insuffisant.
Oui, Jérôme Pimaud, vous êtes coursier et cofondateur du collectif des livreurs autonomes parisiens Clap 75. Quand on parle d'avancée sociale, c'est par exemple quoi? Une complémentaire santé qui pourra arriver, de la formation aussi, ou bien un droit à la déconnexion et pourquoi pas le droit de refuser une course? C'est bien de cela qu'il s'agit?
Alors, le droit de refuser la course, on l'a déjà. La protection sociale, oui, elle est évidente parce que je rappelle qu'on est quand même, on parle de travailleurs indépendants, on parle d'auto-entrepreneurs. Je rappelle que ces gens-là sont pas des gens qui sont assis derrière un MacBook à dessiner des logos. C'est des gens qui sont payés toute la journée, des fois 9-10 heures par jour, à cramer des feux rouges. Pourquoi ils sont payés à cramer des feux rouges? Parce qu'on les paye au rendement. Mmh. On les paye à la course. Donc, plus ils roulent vite, plus ils ont de course, donc plus ça rentre, en fait, l'argent. Et c'est comme ça qu'ils pensent, et c'est comme ça qu'on les a invités à penser en dehors de toute règle liée au droit du travail, liée à la sécurité des travailleurs. Là, la disruption, en fin de compte, de cette ubérisation, du fait que voilà, on est des indépendants, on n'est plus des salariés, donc on n'est plus lié au code du travail, font que on en revient à payer des gens, à prendre tous les risques. Et en plus, c'est de leur responsabilité, de ces gens-là. Quand quelqu'un tombe, se fait écraser, quand quelqu'un meurt en trimballant un burger dans son sac, les plateformes disent « Ah, c'est pas nous, c'est juste un accident de la route, c'est pas un accident du travail ». On l'a vu avec Franck Abordon, on l'a vu avec Karim à Champs-sur-Marne en mai, on l'a encore vu hier, enfin la semaine dernière, avec Mourad à Mulhouse, qui est un accident grave de vélo. Il était dans le coma jusqu'à encore hier. Et les plateformes Deliveroo disaient, parce que c'est un livreur Deliveroo, que exceptionnellement, ils allaient prendre en charge en fait ce cas-là. Ils l'ont fait parce qu'il y a des mouvements sociaux en ce moment.
Question ce matin sur l'économie digitale et son influence, son impact sur les emplois en France. 01 45 24 7000, on retourne au standard avec Isabelle. Bonjour Isabelle.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en ligne de Landerneau en Bretagne.
Tout à fait. J'ai une question alors totalement naïve et de béotienne, sans doute parce que je n'y connais rien. Il m'a semblé que le système Uber et tous les systèmes proches n'avaient pas du tout pour but de créer des emplois, mais de créer des petits jobs de complément que chacun fait ou ne fait pas pour des étudiants ou des gens qui ont un peu de temps, etc. Et j'ai comme l'impression qu'il y a dès le départ une grosse erreur d'interprétation sur cela.
Alors, voilà. On va poser la question à Gilles Babinet, qui est en ligne de La Rochelle et qui est vice-président du Conseil national du numérique. L'économie digitale et l'Uber, les sociétés Uber, Deliveroo et autres, est-ce qu'elles ont été mal comprises? On a cru que c'était des emplois, des jobs d'été. Finalement, ce sont quand même des statuts d'auto-entrepreneurs. C'est quand même pas rien.
Oui, enfin, l'enjeu, c'est est-ce qu'on considère que c'est des travailleurs ou pas. Et je crois que c'est pas de dire est-ce que c'est une autre forme de travail qui est une forme, on va dire, où on paye moins de droits. C'est est-ce que c'est du travail ou pas. Et dès que c'est du travail ou pas, se posent les enjeux de la protection sociale. Et c'est, je crois, tout le sujet des plateformes, c'est de dire mais finalement on invente un statut nouveau, donc. On doit évoluer dans un cadre qui est nouveau. Mais je veux dire, ça vient d'être dit, si un livreur Deliveroo a un accident grave, il est absolument illogique qu'il ne soit pas protégé par des droits sociaux dans le cadre de cette activité. Ça fait partie, on ne peut pas décorréler l'accident du fait qu'il était en train de livrer un sandwich à quelqu'un. Donc si vous voulez, que vous disiez, c'est des petits boulots, c'est des boulots durables, c'est des boulots de transition ou je ne sais quoi, ça ne change en rien le fait qu'il faut y attacher les droits sociaux. Et pour ma part, je pense que au contraire, plus ce sont des petits boulots, plus on doit créer des formes de droits sociaux, par exemple pour de la formation professionnelle.
On va en parler de la formation professionnelle. On va en parler dans un instant. Jérôme Pimaud, cofondateur du collectif des livreurs autonomes parisiens, on s'est trompé d'approche lorsqu'on a lancé ces marchés et ces emplois sur le marché digital?
Non, enfin, on s'est trompé d'approche. Ceci dit, les plateformes se sont pas trompées. En 2016, dans un article des Éco-entrepreneurs, le grand patron de Deliveroo, William Chou, un Américain, disait que les livreurs pouvaient gagner jusqu'à 4 000 euros. c'est pas du job étudiant, ça, parce que pour gagner 4000 euros, déjà à l'époque, il fallait faire du 60-70 heures par mois, par semaine, pardon. Encore maintenant, la plateforme Deliveroo met une limite, en fait, au nombre d'heures par semaine, qui est de 55 heures par semaine.
Qui impose cette limite?
Deliveroo, en fin de compte, fait qu'un livreur ne peut pas travailler plus de 55 heures dans la semaine. Donc, on est loin du job d'été. Et puis, cette limite est aussi quelque chose qui peut aussi faire part de subordination, mais on en parlera peut-être plus tard.
Alors, de l'encadrement, on tente de s'y employer en France avec une loi d'orientation des mobilités hein, qui devrait être adoptée le mois prochain par les députés. Pascal Lioquec, président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. Quel est l'esprit de cette loi ?
Alors, l'esprit de cette loi, c'est d'offrir un certain nombre de protections à ces travailleurs. Donc, Emmanuel Macron, qui présente souvent le nouveau monde comme ce qu'il faut promouvoir, évidemment a parfaitement compris que ces travailleurs des plateformes participent de ce nouveau monde. Donc, c'est l'idée qu'il faut leur donner des protections, mais qu'il ne faut pas les faire rentrer dans le salariat. Il est clair, lorsqu'on lit le projet de loi mobilité, que la logique du gouvernement n'est pas d'aller vers la requalification. D'ailleurs, il y a un petit passage, qui d'ailleurs n'est pas très clair pour le juriste, qui indique que lorsque la plateforme est allée une charte, l'existence de la charte ne caractérise pas un lien de subordination. Tout ça prouve que la logique n'est pas d'aller vers le droit du travail. Donc, quelle est la logique ?
Vers le salariat.
Vers le salariat et le droit du travail. Donc, quelle est la logique ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une sorte de statut intermédiaire.
Donc, ouais, le statut intermédiaire, il marche en Espagne, sauf que le gouvernement a toujours un peu rejeté cette idée, c'est-à-dire un statut intermédiaire entre le salariat et l'indépendant.
Oui, il refuse l'adoption d'un statut intermédiaire général. Alors, moi, je suis pas favorable non plus à ce statut.
Pour quelle raison ?
Parce que en Italie et en Espagne, on a des effets pervers extrêmement forts, à savoir des employeurs qui vont déplacer leurs salariés vers le statut intermédiaire moins protecteur. Et donc, vous avez une sorte de glissement de beaucoup de salariés vers ce statut intermédiaire qui, nécessairement, est moins protecteur. Donc, je ne suis pas favorable. Et la logique qui consisterait, pour des travailleurs très ciblés, comme les travailleurs de mobilité, à donner des protections, moi, je suis pas contre. Le vrai souci, c'est que c'est ce qu'on appelle le droit mou. C'est-à-dire que ce qui est proposé, c'est extrêmement mou. Un exemple. Il est prévu que les livreurs doivent être informés sur le prix de la course. Mais à aucun moment dans le texte, on prévoit un prix minimum.
Il y a juste
une communication, en fait. Il faut communiquer.
Le tarif minimal garanti pour chaque course n'est pas garanti.
Non, voilà, exactement. Ce sont essentiellement des informations. Ça ne suffit pas.
Parole à Jérôme Pimaud, coursier, cofondateur du collectif des livreurs autonomes parisiens.
Oui, et ça se voit, c'est tellement caricatural, en fin de compte, cette proposition qui fait que sur Deliveroo, on a déjà le prix qui s'affiche de la course. Sauf qu'en fin de compte, là, l'objet des grèves, l'objet de la contestation, c'est que ce prix, oui, certes, il s'affiche, mais il a perdu 50% du jour au lendemain. Et nous, ce qu'on voudrait, une des principales revendications, outre le fait qu'évidemment on veut que le prix remonte comme il était avant, au moins, on voudrait surtout savoir comment est construit ce tarif. Parce que ce tarif qui s'affiche sur le téléphone, on ne sait pas comment il est construit. On ne sait pas. Il y a des fois aucune logique par rapport aux distances des courses qu'on fait. Il n'y a aucune logique. Des fois, il va y avoir deux courses quasi identiques avec un tarif différent, mais des fois drastiquement différent. On voudrait savoir combien coûte notre minute, combien coûte notre kilomètre. À partir de là, on n'aura même plus besoin que le prix s'affiche. On le saura dans notre tête.
Et vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure comment fonctionne l'algorithme sur ces plateformes. Il y a des critères qui vous laissent pantois. On avait lu ça quelque part tout à l'heure. On va y revenir. Vous aviez un commentaire, Pascal Lioquec, sur ce nouveau statut.
Oui, parce que la charte, elle est à la fois facultative et unilatérale. Et je voudrais revenir sur ce point. Une des grandes lacunes en France aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de représentation collective pour ces travailleurs des plateformes. En fait, les salariés qui sont dans une entreprise, ils ont un collectif. La grande difficulté, c'est que ce sont, pour les travailleurs des plateformes, ils se connaissent pas les uns les autres. Il n'y a pas de collectif. Et on n'a donc pas construit de syndicalisme pour ces travailleurs, de convention collective pour ces travailleurs. Et je crois qu'on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on aurait dû d'abord essayer de construire un collectif donner les possibilités de créer des conventions collectives au niveau du secteur de la mobilité et après adopter la charte, ce qui aurait permis une charte négociée. C'est assez curieux parce que le mouvement en droit du travail, c'est d'aller vers de plus en plus de droits négociés parce qu'on a des acteurs. Mmh. Ben là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une charte élaborée unilatéralement par les plateformes parce qu'on n'a pas les acteurs. Donc d'abord les acteurs, et après, la charte, mais malheureusement, on a fait l'inverse.
Et une charte facultative voilà. De plus. 01 45 24 7000, on retourne au standard. Avec Théo. Bonjour Théo.
Bonjour.
Vous nous appelez de Metz. Je crois que vous avez été coursier aussi chez Deliveroo.
Oui, je l'ai été, effectivement.
Quelle est votre question ?
Alors moi, c'était plus une réaction par rapport à ce qu'a dit un de vos invités. Il me semble que c'était Jérôme Pimentel, mais je suis pas sûr. Il a parlé de 10 à 15 euros de l'heure pour les coursiers Deliveroo. Alors c'est vrai, mais dit comme ça, ça peut paraître énorme parce que 10 à 15 euros, on se dit c'est une fois et demie, deux fois le SMIC. Mais ça, en fait, là, on parle seulement de chiffre d'affaires. Là-dessus, on peut considérer que un livreur Deliveroo, il se paye avec la moitié de ça parce que dans le chiffre d'affaires, il doit retrancher quasiment 25% de charges et également 25% de frais divers comme l'entretien du vélo, le téléphone qui prend très cher quand il a roulé 3 heures sous la pluie un soir, le forfait téléphone et également de mettre de côté pour les congés maladie.
Et bien Théo,
les congés payés. Oui.
Pour parler concrètement, quels étaient à l'époque vos revenus mensuels pour combien d'heures de travail par semaine ? Alors, attendez, on va prendre le revenu à la semaine. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous préférez parler du revenu à la semaine ou du revenu mensuel ?
On pourrait parler des deux, ça changerait pas grand-chose. Mais
alors, dites-nous une moyenne.
En fait, c'est extrêmement variable parce que il faut savoir qu'il y a un système de réservation de créneaux. Et si on est mal noté, on peut ne pas avoir de créneau une semaine, alors que la semaine précédente, on en avait eu beaucoup. Et évidemment, qui dit pas de créneau, dit pas de salaire. Et même à nombre de créneaux égal, les revenus qu'on peut générer en hiver, quand il pleut, que les clients commandent beaucoup, que les livreurs veulent pas forcément travailler, ils sont beaucoup plus importants qu'en été où c'est l'effet inverse. Voilà.
Très bien. Merci d'avoir appelé Théo en ligne de Metz. Une question à Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique. Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui a souvent encouragé la nouvelle économie, aujourd'hui entre les plateformes qui décident de tout et les autres entrepreneurs qui frappent à la porte, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas choisi son camp en voulant laisser pas mal de liberté aux patrons des startups ?
Oui, et si vous voulez, c'est même, je trouve, une occasion manquée parce que en ce moment, je ne suis pas politologue, mais j'observe que on lui fait quand même plus que de coutume remarquer qu'il porte beaucoup de mesures de droite et à l'égard de ce sujet qui sera un marqueur, je pense, du 21e siècle, c'est-à-dire les droits sociaux des travailleurs des plateformes, il a une opportunité extraordinaire de se positionner sur des enjeux fondamentaux et puis en plus, à mon avis, des enjeux historiques. C'est-à-dire que sur le long terme, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va constituer un socle de droits sociaux pour les travailleurs des plateformes qui seront forts parce que on rentre dans la société de la connaissance, cette notion de flexécurité qu'on nous a inventée est très emblématique de ce que peuvent faire les plateformes. Et donc, je trouve que oui, la loi LOM est quand même un peu regrettable. Cette idée de charte, qui est une forme de non-négociation unilatérale, est vraiment, je ne voudrais pas faire des références au 19e siècle, mais c'est pas une loi qui marquera le siècle, certainement pas. Et donc on a raté une occasion, et je crois que le Conseil national du numérique d'ailleurs s'est exprimé exactement en ce sens, on rate pour l'instant une occasion de créer vraiment un acte fondateur de ce que pourraient être les droits sociaux des plateformes.
Eh bien, merci. Ce soir au téléphone sonne, question sur l'ubérisation des emplois. Vous nous appelez 01 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Il est 19h46, une question de Caroline. Bonjour Caroline.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Grenoble. Quelle est votre question sur la digitalisation de l'économie et son impact sur les emplois ?
C'est pas une question, c'est plutôt un retour que j'ai eu la semaine dernière sur Grenoble, où il m'a été rapporté qu'en fait, des personnes sous-traitent leurs courses à des jeunes mineurs isolés ou à des personnes en situation administrative complexe.
Ce qui est évidemment illégal.
Voilà, et que du coup, ce type d'emploi favorise une précarisation de certains pour le bénéfice de d'autres personnes.
Écoutez, on va demander à quelqu'un du métier, Jérôme Pimaud. Je rappelle que vous êtes coursier et cofondateur du collectif des livreurs autonomes parisiens Clap 75. Des livreurs à vélo qui délèguent, qui sous-traitent d'autres courses, et notamment auprès des mineurs. Ce sont des cas dont vous avez déjà entendu parler.
C'est ça, Gilles Babinet, tout à l'heure au téléphone, prenait des pincettes pour parler du 19e siècle. Moi, j'en prends pas assez, le 19e siècle. C'est pas parce qu'on a un smartphone à 1000 balles ultra moderne. La modernité, c'est pas du progrès, hein. Par contre, le progrès naît souvent de la modernité. Au 19e siècle, en fin de compte, tous les mouvements sociaux s'étaient liés justement à l'industrialisation, à ces gens qui se retrouvaient dans les usines, ou des gens comme les canuts qui se retrouvaient à être payés de moins en moins. Là, en fin de compte, oui, les travailleurs de cette nouvelle économie, mais vieille idée, se sont dit, ouais, c'est vrai qu'on gagne de moins en moins avec nos vélos, avec nos scooters. Par contre, ce qu'on peut faire, notre compte, il vaut cher, en fait, parce que ça nous permet de gagner de l'argent. Avec un compte, je peux le louer à 5, 6, 10 personnes sur lesquelles je vais prendre 15, 20, jusqu'à des fois 50%. Donc, en fin de compte, il y a toute une économie parallèle qui s'est mise en place à des gens qui louent des comptes jusqu'à, je vous dis, 50% de taxation sur le chiffre d'affaires. Et puis, c'est pas l'URSSAF, hein, il n'y a pas de protection derrière. Et donc, évidemment, à des mineurs, des gens qui ont besoin d'argent de poche, parce que mine de rien, l'ubérisation, c'est facile. Deliveroo, les restaurateurs demandent pas les papiers, même quand ils ont quelqu'un d'1m20 et de 40 kilos. Les clients, on voit juste leur main, ils s'intéressent pas à nous. Et puis dans la rue, quelqu'un qui fait du vélo, voilà, ça paraît naturel. Et puis évidemment, il y a l'autre population qui sont les réfugiés. On est parti en blocage samedi de Place de la République jusqu'à Saint-Ouen où sont une des cuisines centrales, ce qu'on appelle les cuisines centrales, les Deliveroo-éditions de Deliveroo. On est passé sous
quel rapport avec les réfugiés alors ?
Quel rapport ? Parce qu'en fin de compte, on est passé sous le périphérique du côté de la porte de Clignancourt, en porte de Saint-Ouen. Et là, en fin de compte, avec tous nos scooters, on était une trentaine de scooters avec les klaxon. Là, en fin de compte, les réfugiés qui connaissent très bien notre boulot, parce que là, ils étaient sous leur tente, enfin à côté de leur tente, ils nous ont vu passer, ils nous ont applaudi. C'est là qu'on a été le plus applaudi. Donc oui, en effet, ces gens-là connaissent ce métier-là, parce que souvent ils le font, mais eux, c'est pas entre 10 et 15 euros de l'heure. Je parlais de ça tout à l'heure, Théo l'a bien fait remarquer. Je pense que les auditeurs de France Culture ont compris que France Inter, pardon.
Mais France Culture, les auditeurs de France Culture sont les bienvenus aussi.
Je pense que les auditeurs ont bien compris que 10 à 15 euros de l'heure brut pour risquer sa vie, ça reste quelque chose de très très minimal. Et sauf que ces gens-là, ces réfugiés, ils sont à 2-3 euros de l'heure, et les mineurs aussi.
Alors on va s'intéresser maintenant au point de vue strictement commercial. Hein. Deliveroo vient d'annoncer il y a quelques heures qu'il se retirait du marché allemand pour d'autres marchés à plus forte croissance dans le monde. C'est le communiqué de Deliveroo. Ça veut dire que dès lundi, 1100 livreurs à vélo n'auront plus de course en Allemagne, plus une centaine de personnes dans les bureaux allemands. C'est tout de même d'une rare violence, Pascal Lokiek. Il va falloir s'y habituer à cette violence, notamment de l'économie digitale.
On est sur du travail indépendant. Ça veut dire que vous n'avez pas de protection contre la rupture. Effectivement, un travailleur des plateformes, un livreur, peut être du jour au lendemain viré entre guillemets par la plateforme sans aucune garantie d'avoir un contrôle du juge sur son motif du licenciement, sans aucune indemnité. Donc on est sur une économie totalement libérée. Et il faut savoir que le contrôle de la rupture, le contrôle d'un licenciement, c'est bien à la fois évidemment pour le travailleur, mais aussi pour l'entreprise. Hein, la fidélité d'un travailleur, c'est quelque chose de très important. On sait très bien que les livreurs peuvent très bien passer du jour au lendemain de Uber dans une autre entreprise, ce qui empêche ces entreprises de constituer une sorte de collectif. Vous savez, quand les Chinois sont passés du communisme à l'économie de marché. Quasiment du jour au lendemain, le modèle s'est devenu le contrat à durée déterminée. Et ils ont réalisé assez vite que avec un modèle de précarité, les salariés n'étaient plus fidèles, étaient moins efficaces, et ils sont repartis vers un modèle de contrat à durée indéterminée.
L'Europe du Nord a fait autrement en appelant ça la flexi-sécurité.
Absolument. Mais c'est juste pour dire que cette totale précarité du travail, c'est pas bon évidemment pour les travailleurs, mais c'est pas bon non plus pour les pour les entreprises.
Jérôme Pimaud, cofondateur du collectif des livreurs autonomes parisiens, vous souhaitez apporter un commentaire ?
Oui, oui, on parle un petit peu de presque de fatalité du fait qu'on est des auto-entrepreneurs et qu'en fin de compte, on peut pas faire grand-chose. Il y a quand même des procédures en justice qui ont été menées et plusieurs dizaines avec des si au départ ça a été un petit peu compliqué parce
pour
que
requalifier l'auto-entrepreneur en CDI.
C'est ça, les procédures ont commencé à être un petit peu longues parce qu'il y avait des reports, il y avait des recours. Maintenant, voilà, on obtient des résultats.
Sauf que dans la loi l'homme, enfin la prochaine loi en septembre, tout sera fait pour éviter qu'il y ait une propagation.
Alors, j'ai parlé à des députés, à des sénateurs qui me disent oui, rien n'empêchera de requalifier. C'est plus technique que ça fait. Et on n'a pas le temps de décortiquer ça aujourd'hui. Mais en fait, on voit bien qu'il y a eu déjà des succès jusqu'à la Cour de cassation qui a décidé qu'un ex-livreur Take It Easy était salarié. Quelques autres aussi ont gagné, les procès Take It Easy. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'Espagne. L'Espagne qui, en effet, a ce fameux statut intermédiaire. Mais sauf que les livreurs de Deliveroo se sont vus requalifier. 500 livreurs de Deliveroo se sont fait requalifier en Espagne. Donc l'Espagne a compris qu'en fin de compte, le statut intermédiaire, c'était pas pour les livreurs à vélo.
Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique, dans un de vos livres sur la transformation digitale et l'avènement des plateformes, vous avez pointé les futures adaptations d'une future carrière et vous aviez évoqué une indispensable réorganisation de la division du travail. À quoi ressemblera cette réorganisation, Gilles Babinet ?
Oui, c'est très long à expliquer en quelques mots, mais je pense qu'effectivement, si vous voulez, on nous vante depuis maintenant 20 ou 30 ans l'idée d'avoir accès à la connaissance plus facilement et de pouvoir se former tout au long de la vie. Le paradoxe, c'est qu'on utilise des technologies qui sont de plus en plus sophistiquées et qu'on est de moins en moins formé d'une certaine manière. Ou du moins, on a une précarisation de toute une classe sociale qui est assez importante. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que l'idée, c'est pas forcément de faire en sorte que tout le monde soit en CDI parce que lorsque vous discutez avec les travailleurs des plateformes, beaucoup d'entre eux vous disent on ne souhaite pas ça, et je crois que ça doit être dit, mais c'est de créer des droits spécifiques qui sont propres à chaque communauté.
Et alors si on prend, je vous coupe Gilles Babinet, mais si on prend l'exemple de la formation professionnelle, elle va donc devenir indispensable s'il va falloir bientôt se réadapter et régulièrement, mais cette formation professionnelle, elle a un coût. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir l'envisager, cette formation, en dehors des horaires de travail ? C'est ça l'avenir lié à la révolution numérique ?
Oui, c'est un vrai sujet de savoir si on doit se former sur les heures de travail, en dehors des heures de travail. Pour la France, en tout cas, le premier des sujets, c'est d'accroître le nombre d'heures de formation en premier lieu parce qu'il est insuffisant et de faire en sorte que plutôt que de toucher des publics très qualifiés, on aille toucher des publics qui ne sont pas très qualifiés, typiquement les travailleurs des plateformes. Et donc là, c'est un sujet qui n'a pas encore été abordé, mais me semble-t-il, l'un des droits auxquels on devrait permettre aux travailleurs des plateformes d'accéder, c'est évidemment la formation professionnelle. Pour le moment, ça fait pas vraiment l'objet d'un grand débat.
D'un grand débat parce qu'elle a un coût et évidemment ça coûte cher. Jérôme Pimaud, un commentaire.
Oui, la formation professionnelle, pour l'instant, quand les plateformes s'en servent, c'est pour justement faire de la profession. La formation professionnelle à leur compte, en fait. Elles vont typiquement faire de la formation professionnelle pour acquérir la capacité...
Non pas pour le salaire, non pas pour l'auto-entrepreneur.
C'est ce qui leur profite, la capacité de transport pour les livreurs. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps, donc je voulais juste rappeler qu'on a mis une pétition en ligne pour les gens qui veulent protéger les livreurs. Ça s'appelle change.org, .deliveroo, donc c'est facile à trouver.
C'est bien de le dire aussi, avec un auditeur en ligne, Michel. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
01 45 24 7000, vous aviez un commentaire ou une question à poser, vous appelez de Pau.
J'ai pas forcément une question, c'est plutôt une réflexion de fond. En fait, au-delà des douaniers, les patrons, etc., etc., je pose la question par rapport aux consommateurs. Est-ce que c'est pas les consommateurs qui font que en voulant les choses beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, ne pensent plus du tout à ceux qui les servent quelque part entre guillemets, quoi, enfin qui les livrent. Et ça, fondamentalement, je me pose la question, savoir si vraiment on est là pour penser aux autres, quoi. Voilà. tout simplement. Voilà, c'est la question que vous me posez.
Eh bien, c'est Pascal Loquet qui va vous répondre. Il est président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale.
Alors, c'est une question absolument essentielle. Vous avez tout à fait raison de la poser. C'est comment est-ce qu'on concilie les intérêts des consommateurs et les intérêts des travailleurs qui sont aussi des consommateurs. Et il est évident que la tentation pour les consommateurs d'avoir des prix plus bas peut aussi avoir pour conséquence de conduire à des salaires plus bas. C'est une problématique qui est extrêmement complexe et je crois qu'effectivement, va falloir l'appréhender. Hein, c'est quelque chose qu'on trouve par exemple pour le travail dominical. Hein, vous savez que la question, c'est d'un côté, on a les consommateurs qui veulent que ce soit ouvert le dimanche, et de l'autre côté, vous avez un certain nombre de travailleurs qui ne veulent pas être ouverts le dimanche. C'est compliqué parce que c'est assez schizophrène, puisque le consommateur est lui aussi travailleur. Donc,
et le dimanche, ajoutez la religion là-dessus et vous avez tout gagné.
Voilà. En tout cas, vous avez raison de poser la question. C'est l'une des grandes questions du futur, à mon avis.
Et Jérôme Pimaud, cofondateur du collectif des livreurs autonomes parisiens.
Oui, attention, parce que le consommateur, il a une responsabilité, il a aussi un pouvoir. Il faut savoir que le consommateur, jusqu'à il y a un an, il payait 2,50€, quelle que soit la livraison. Les prix, les frais du client ont augmenté chez Deliveroo et chez Uber Eats. Ça, on n'en a pas parlé. Très, très peu de gens l'ont vu venir. Il a aussi un autre pouvoir. C'est ce qu'on a mis en place avec justement les derniers mouvements. C'est le boycott. Le boycott ponctuel. On a mis en place ça parce qu'en fin de compte, on veut créer chez la plateforme Deliveroo, avec laquelle on est en lutte pour l'instant, un espèce de creux qui fait que le samedi, et notamment samedi prochain, on appelle au boycott parce que les clients, on s'est aperçu sur les réseaux sociaux que beaucoup nous demandent ce qu'ils pourraient faire pour nous aider. Et ben, on a mis en place ce boycott ponctuel, comme la grève perlée, qui fait que ben samedi, il y aura moins de commandes, donc Deliveroo va être impacté.
Puisque vous en parlez, Jérôme Pimaud, à propos de la stratégie des auto-entrepreneurs en grève chez Deliveroo, c'est sûrement pas facile de mobiliser en ce moment autour du 15 août. La stratégie aujourd'hui, c'est quoi? C'est de tenir bon jusqu'en septembre et pour négocier avec la direction et négocier quoi?
Là justement, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup au mois d'août. Ceux qui sont là sont typiquement ceux qui ont le plus besoin de travailler. C'est pour ça d'ailleurs que Deliveroo met en place ces nouvelles tarifications toujours à cette époque-là, comme les fameuses lois qui sont passées quand il y a personne dans les assemblées. Donc voilà, sauf que ceux qui avaient besoin de vraiment bosser là pendant cet été, ils ont vu leur chiffre d'affaires amputé, et je vous dis presque de moitié. Donc en effet, ça a fait un gros mouvement. On n'est pas encore beaucoup. On était une centaine samedi et mercredi. On était encore une cinquantaine mercredi.
Sur combien de salariés chez Deliveroo
Alors les chiffres sont super bizarres. Moi, quand j'ai entendu tout à l'heure les chiffres, quand j'ai entendu les chiffres allemands, je me dis qu'en fin de compte, si l'Allemagne a 1000 livreurs chez Deliveroo, en France, on ne doit pas être à 11 000 comme dit Deliveroo. On ne serait pas surpris un jour d'apprendre qu'on est finalement plutôt que 2-3 000 et pas 11 000.
Eh bien, merci d'être venu en parler ce soir sur France Inter, Pascal Loquiac, Gilles Babinet, Jérôme Pimaud. Merci aussi à la réalisation de ce Téléphone Sonne. Un grand merci à Céline Hilla, avec l'aide précieuse à la préparation de Pierre de Certaine, Emma Ferré et Mathilde Sourd. Patrick Henry à la console avec Loïc Frapsos. Demain au Téléphone Sonne, on va s'intéresser au mythe napoléonien. Qu'en reste-t-il? À demain donc sur France Inter. Il est 20h.